Et c'est en même temps très difficile. Ce que j'ai intitulé philosophie de la matière. J'aime mieux dire ça que philosophie de la nature. Vous comprenez? Parce que philosophie de la nature, on a des vieux schèmes à côté de soi et on ne sait plus très bien ce que c'est. Alors j'aime mieux dire philosophie de la matière. Et vous voyez, j'espère, pourquoi, nous le reverrons du reste progressivement, comment se pose pour nous le problème de la philosophie de la nature. Le problème pour nous de la philosophie de la matière. Alors, je vais d'abord faire une petite introduction historique. C'est nécessaire. Poser le problème chez Aristote, et comme nous n'avons jamais fait ce cours, je verrai avec vous, c'est pas mauvais du reste, les premiers chapitres de la physique d'Aristote. Ce sera un petit genre séminaire si vous voulez, lecture de texte s'il le faut, réfléchir un peu. Puis on se posera la question, très bien Aristote, très bien, c'est intelligent. Est-ce que nous pouvons, à partir de là, en nous servant d'Aristote, poser le problème pour nous? Et comment? Je crois que c'est très important. On verra quelques manuels de philosophie de la nature moderne, comment ça se pose, parce que vous verrez tout de suite, il y a deux grandes voies d'accès. Il y a la voie d'accès scientifique et il y a la voie d'accès artistique. Celle-là, elle est très peu connue, hein. Je la prends. On croit toujours qu'il n'y a qu'une seule connaissance, la connaissance scientifique pour la nature, pour le monde physique. Il y a peut-être une autre voie d'ordre philosophique et plus humaine par le fait même. Et ça, c'est pour vous situer tout de suite. Hein. Je me réfère à Aristote, pas pour imiter Aristote. Hein. Ce ne serait pas philosophique. Je me réfère à Aristote, je me réfère à Platon, parce que ce sont les deux grands premiers. On pourra se référer à saint Thomas, c'est pas mauvais, pour essuyer les critiques et savoir comment on peut y répondre, parce que ce sont des critiques assez véhémentes. Et j'ai encore reçu une lettre aujourd'hui d'un pasteur protestant de Suisse qui me dit « Que pensez-vous de ce genre de critique qu'on fait à saint Thomas ?» Qu'est-ce qu'il faut en penser? Un petit groupe de pasteurs qui se réunissent régulièrement pour étudier les études médiévales. Il met dans sa lettre, de façon très touchante, plus j'entre dans la patrologie, plus j'entre dans les grands théologiens du Moyen-Âge, plus je m'aperçois que la cassure, c'est le mot qu'il emploie, que la cassure de la réforme est terrible. Et plus je me sens mal à l'aise avec cette cassure. Et il m'invite pour venir leur faire un petit exposé sur saint Thomas ou sur saint Jean. Alors je dirais qu'il faut en faire deux. Une douzaine de pasteurs qui travaillent comme ça dans un désir de vérité. De recherche de vérité. Vous voyez, le véritable œcuménisme, hein, foncièrement, il est là. C'est cela. Le jour où cela diront ouvertement, eh bien oui, on a compris. Il faut tout reprendre. Et le dire de façon, alors là, ça fait vite tache de neige. Alors, on va essayer de comprendre comment le problème s'est posé. Comment le problème s'est posé. Pour Aristote. Alors, le problème s'est posé chez les pré-socratiques. C'est posé très très vite. On pourrait dire que c'est le point de départ de la philosophie. selon l'ordre génétique. L'école de Millet, c'est une philosophie de la matière. Quand on cherche l'origine de tout, et c'est vrai que pour l'homme, l'origine de tout, mais c'est ce monde matériel, c'est le vent qui est l'origine de tout, vous comprenez? Quand le vent est violent, hein, il décorde les bœufs. Donc on voit très bien ce que ça veut dire. Hein. C'est agréable du reste. Hein. Pense à la mer. Alors ça fait quelque chose qui est bon. L'origine de tout, l'école de Millet. Je crois que c'est le premier bégaiement d'une philosophie de la matière. Au point de départ, l'eau. Au point de départ, le souffle vivant. Au point de départ, l'infini, la Peyronne. Ce serait très intéressant uniquement d'étudier ces points de départ génétiques. Je vous ai déjà dit, il y a deux pôles de la philosophie constants. Le regard sur l'univers, le regard sur l'homme. Et que les Grecs avaient uni en disant le grand cosmos et le petit cosmos. Vous voyez, quand nous disons, nous, en théologie biblique, chaque fois que Dieu se révèle, il révèle à l'homme ce qu'il est. Chaque fois que Dieu révèle à l'homme ce qu'il est, il se révèle. Je crois qu'au point de vue philosophique, on pourrait dire chaque fois que l'homme regarde l'univers, il se découvre, et chaque fois qu'il se regarde, il découvre l'univers. Il y a un lien très mystérieux. C'est très différent, mais c'est deux trames, si vous voulez, sur lesquelles il faut tout le temps venir. Il y a un lien mystérieux, très mystérieux, entre l'univers et l'homme. Le petit cosmos et le grand cosmos. Dans le grand cosmos sont inscrites certaines lois que le petit cosmos répercute et répercute transformé par quelque chose que le grand cosmos n'a pas, l'esprit. Le grand cosmos, il est en liaison avec l'esprit puisqu'il a été pensé. Mais la pensée n'est pas présente de la même manière dans le grand cosmos et dans le petit, le microcosmos, qui est l'homme. Vous voyez, tout de suite ce problème, qui a été au fond un des problèmes philosophiques constants. Quelle est la présence de l'esprit dans le monde? Quelle est la présence de l'esprit dans l'homme? Comment l'esprit transforme-t-il la matière? Tout en maintenant que la matière est matière, et qu'elle n'est pas esprit. C'est trop facile de voir une continuité entre les deux. Il peut y avoir un ordre, mais il y a quelque chose de différent. Et le philosophe, quand il essaiera de découvrir ce que c'est que l'âme spirituelle, l'âme humaine, il verra bien que l'âme humaine, bien qu'elle n'existe pas, selon notre expérience actuelle, en dehors du corps, j'ai jamais rencontré une âme séparée. J'espère que vous non plus. J'ai jamais rencontré une âme séparée. J'ai rencontré des cadavres. Et quelquefois ambulant, des spectres, il n'y a plus d'âme. Et quand personne disait « notre monde réclame une surâme », qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui personne? Alors où l'esprit est enfoui dans la matière, et on ne voit plus que la matière, où l'esprit se dégage de la matière, se sépare de la matière et rejette la matière, perpétuellement, c'est comme ça, par rapport à l'homme, et je dirais même par rapport à l'univers. La grande vision des Grecs, l'âme universelle du monde. C'est une vision mythique, c'est une vision religieuse. Notre monde est habité par une âme spirituelle. Vous voyez ce que le père Festugière dit là-dessus, c'est très intéressant, et c'est vrai, ça correspond à quelque chose d'extrêmement profond, ça. Alors, est-ce qu'il y a une âme spirituelle du monde? Ou est-ce que notre monde dépend d'une sagesse divine? Et si notre monde dépend d'une sagesse divine, notre monde ne peut être pleinement intelligible que dans son rapport avec la sagesse divine. Il a en lui son intelligibilité, mais pas plénière. Alors est-ce qu'il faut dire que l'âme est immanente au monde? Ou est-ce qu'il faut dire que notre monde physique dépend de quelque chose de spirituel, d'une réalité spirituelle? Ou faut-il mettre une espèce d'opposition dialectique entre notre monde physique et le monde de la pensée? Vous voyez, ces problèmes qui sont des problèmes philosophiques tout à fait fonciers, ça a commencé par là. Alors, je ne vais pas faire un cours de présocratique avec vous. C'est pas le but. Vous l'avez déjà fait, le cours de présocratique. Mais je crois, rappelez-vous un peu, comment, tout de suite, la philosophie a eu deux pôles d'attraction. Le cosmos grec et l'homme religieux pythagoricien. L'homme religieux pythagoricien a été un grand développement de la philosophie. Et le monde physique devant lequel l'homme se trouvait a été un sujet perpétuel de réflexion. C'est vrai qu'il y a deux sources. La philosophie commençait toujours par... Et c'est perpétuel, ça. Je crois qu'on retrouverait tout le temps ça. Et c'est très rare, les philosophes qui maintiennent les deux. C'est très rare. Parce que c'est difficile de maintenir le regard sur l'homme dans ce qu'il a de plus spirituel, l'homme religieux, l'homme contemplatif. Et puis, l'homme parti de l'univers, l'homme dépendant de l'univers. Alors, je prends deux grands philosophes de la philosophie grecque. On pourra en ajouter un troisième, si vous voulez. Mais j'en prends deux grands, Platon et Aristote. Comment le problème de la philosophie de la matière s'est posé chez Platon? Pouvons-nous parler d'une philosophie de la matière chez Platon? C'est net que Platon est entré dans le problème philosophique grâce à Socrate, qui a reçu une inspiration à Delphes, une inspiration de la déesse. Vous voyez que la philosophie a commencé par une inspiration divine pour Platon, pour Socrate. Autrement dit, pour le jeune Socrate, disciple. Pour le jeune Platon, je veux dire disciple de Socrate, la philosophie est premièrement « connais-toi toi-même ». Une réflexion profonde sur ce que nous pensons, ce que nous aimons, notre conscience humaine. Une réflexion sur cela. Et presque séparée du corps. Même, je crois qu'on peut dire, le corps est un tombeau. Le corps, c'est la limite. Il faut le repousser le plus loin possible. Et c'est l'âme, dans sa propre conscience, qui se développe. C'est sûr que le platonisme a commencé comme ça. Mais plus Platon, j'allais presque dire, se sépare de Socrate, c'est-à-dire devient lui-même, plus Platon acquiert son autonomie philosophique, plus le problème philosophique alors s'étend. Ce n'est plus seulement le problème des idées, des formes idéales, le problème de l'âme, c'est aussi le problème de l'âme unie au corps, qui est un problème, je crois, chez Platon, un problème auquel il est revenu tout le temps. Quel rapport y a-t-il entre nos sensations et notre connaissance spirituelle, philosophique, dialectique? Quel rapport y a-t-il entre nos sensations et la contemplation? C'est très difficile de bien voir ça. Et je crois que si on est attentif, on voit que progressivement, sous quelle influence, point d'interrogation, Platon réintroduit une connaissance de la sensation qui au point de départ était très rejetée. Autrement dit, avec le Parménide, qui est le livre critique, l'autocritique de Platon, avec le jeune Aristote, qu'on dit évidemment n'être pas Aristote philosophe. On ne sait jamais. Avec le jeune Aristote, n'oublions pas qu'Aristote était quand même 20 ans disciple de Platon. Et que Platon, selon des traditions qu'on ne peut pas mettre trop en doute, considérait Aristote comme le liseur. Donc, l'homme studieux. Il y avait sûrement un amour très grand entre Platon et Aristote. Et une indépendance farouche d'Aristote par rapport à Platon. Ça a dû se manifester très vite. Et alors on oublie, moi je crois qu'on oublie beaucoup trop, qu'en Grèce, l'influence des jeunes était bien plus forte que pour notre monde occidental. Je suis persuadé que Aristote a eu beaucoup plus d'influence sur Platon qu'on le dit. Alors on voit toujours de l'influence de Platon sur Aristote, on ne voit jamais l'inverse. Ce qui serait beaucoup plus intéressant à faire, de l'influence du jeune Aristote sur Platon à l'âge mûr. Aristote a saisi la faille chez Platon. Ça me semble impossible qu'un jeune étudiant comme comme Aristote n'ait pas, avec sa petite fronde, envoyé les petits cailloux au bon endroit pour que cette immense construction, la République, c'est une immense construction. Une construction terrible quand on voit ce qu'est la famille dans la République de Platon. C'est extraordinaire de voir ça. Quand on essaie de comprendre ce qu'est la génération chez Platon, toujours référant à la République. Il faut avoir lu une fois dans sa vie, au moins, et même l'avoir lu plusieurs fois, la République de Platon. C'est un livre classique. C'est un très grand livre. Relativement facile à lire quand on est un tout petit peu habitué à la philosophie. C'est un livre énorme. Et je crois que là, Platon est encore naïf. Parce que que l'influence d'Aristote n'est pas encore passée. Alors il construit sa construction extraordinaire. C'est très naïf, la République. Mais d'une naïveté intelligente. D'une naïveté dialectique. Ça passe au crible. C'est toute une vision. Une grande, grande vision. Sur la contemplation de la bonté, le regard sur la justice, les liens entre justement ce qu'on représente la contemplation et l'action politique, et le problème central de la vérité, la caverne, le mythe de la caverne. Je crois que Heidegger a assez bien vu, à sa manière, hein. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un beau Heidegger. Alors il a saisi tout. Il a manqué de rencontrer un saint. Qui fasse que la tête du boa accepte d'être brûlée. C'est un boa extraordinaire. Voir la manière dont il absorbe Parménide, la manière dont il absorbe Platon, la manière dont il parle de la vérité dans le mythe de la caverne. Mais c'est très intéressant parce qu'il a saisi quelque chose. Il ne faut pas le suivre, mais il a saisi quelque chose. Notre Platon moderne, c'est Heidegger. Je crois. C'est notre Platon moderne. Je dirais pas du tout Hegel. Tandis que Heidegger est vraiment un peu comme Platon. C'est assez étonnant. C'est pour ça du reste qu'il ne peut pas le supporter. Ils sont trop semblables. Je crois que c'est deux grandes philosophies de la qualité, deux grandes philosophies de la forme. Mais ça ne va pas plus loin. Ils ont saisi la forme, ils ont été séduits par la forme. Ils n'ont pas été plus loin. Ce sont des philosophies de la beauté. Ça, chez Platon, c'est net. Et chez Heidegger, c'est net aussi. Et si on se fait une théologie à partir de Platon et à partir de Heidegger, on fait une théologie esthétique de la beauté. C'est grand, c'est très séduisant, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Le problème de la vérité n'est pas atteint pleinement. On reste, vous voyez, dans une dualité de la vérité. Heidegger n'a pas su dépasser cette dualité de la vérité. Et je crois que ça a été le drame de Heidegger, ça. Parce qu'il y a un drame chez Heidegger. Il y a quelque chose. Il y a eu un drame au plan politique, on le sait. Vous savez bien, à l'égard du nazi. Les Américains, en arrivant, auraient voulu supprimer la chaire de Heidegger. Et c'est Sartre qui a plaidé la cause de Heidegger auprès des Américains. Parce que Heidegger avait un peu été conciliant vis-à-vis d'Hitler. Alors, dans la vie d'un philosophe, hein, c'est un drame, ça. N'avoir pas vu c'était que ce monstre et de l'avoir un peu accepté, une coexistence. Et je crois que ce drame, on n'est pas assez en lumière parce que on vénère Heidegger, on fait attention, mais c'est un drame pour un philosophe. Et je crois que ce drame, c'est au fond, philosophiquement, c'est le drame de la vérité. C'est pour ça qu'il faut être très attentif aux commentaires de Heidegger par rapport au mythe de la caverne. Et c'est très très intéressant ça. Parce que Heidegger là voit tout de suite hein, les deux conceptions de la vérité. Une conception antérieure à Aristote et une conception postérieure à Aristote. Il voit que c'est dans le mythe de la caverne qu'il y a les deux. C'est très beau comme vision. Et je crois que ça, c'est au cœur de toute la philosophie de Heidegger. Je crois que là, il y a quelque chose de très important pour nous à saisir. Toujours intéressant à saisir le drame du philosophe, le drame du théologien, quand on est en présence de philosophies qui n'ont pas su découvrir l'aspect ultime de la sagesse. Pour Heidegger, on reste sur une interrogation. Donc on signe philosophie tragique. Terminer sur une interrogation, c'est une philosophie tragique. Pour lui, ce qu'il y a de plus grand en philosophie première, c'est de poser le problème. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et de penser l'être. Mais quand on pense l'être, on ne va pas plus loin. Et qu'est-ce qu'on pense en réalité quand on pense l'être à la manière de Heidegger ? Je crois qu'on se pense. C'est un repliement très intime sur soi, mais ça ne va pas plus loin. Ce qui est sûr, c'est que Platon, dans la République, a une vision théologique sur la cité. C'est dans la lumière du bien qu'on comprend la justice. On pourrait dire, vous voyez, une vision ontologique de l'homme et de la cité. C'est dans la lumière du bien qu'on voit la justice. C'est dans la lumière du bien qu'on comprend ce que c'est que la vérité. La vérité en soi et la vérité dans l'homme. Critique mordante avec le Parménide, où la naïveté de Platon va disparaître. C'est tellement différent les écrits avant et après. On a tous senti ça. Et alors la reprise, parce qu'au fond, il est tenace, Platon. Il n'accepte pas la critique. Il veut l'absorber. Il essaie de l'absorber. Il reconstruit une nouvelle philosophie. Et vous avez au terme de la philosophie de Platon, le Timée. Et si la République est une grande vision philosophique de l'homme politique, du sage contemplatif, le Timée est une œuvre dernière, autant qu'on peut la situer. C'est une œuvre tout à fait différente de la République. Les Timées et les lois. Mais c'est une philosophie de la matière. Comment notre monde, notre cosmos est-il apparu ? Et vous savez bien que c'est par la causalité exemplaire que Platon va résoudre le problème. C'est par la causalité exemplaire. Donc, on reste en face du primat de la forme. Et la matière est vue comme non-être, c'est-à-dire comme limite de la forme. La matière n'est pas intégrée dans sa philosophie. C'est pour ça que je pourrais dire que chez Platon, vous avez une philosophie de la forme qui rejette la matière. Et donc, pas de philosophie de la matière. La matière est inintelligible. La matière est la cause errante. Et si la matière est la cause errante, c'est justement ce qui explique le hasard, ce qui explique les monstres, ce qui explique toutes les choses qui, dans notre monde, font échec à l'ordre à la beauté et à la bonté. La matière, c'est source du mal. Cause errante. C'est très joli, du reste, comme première définition de la matière. La matière, cause errante. Source du hasard. Source de toutes les contingences. Source de toutes les monstruosités. Cause errante. Elle est non-être. Donc, si elle est non-être, elle n'est pas philosophie. Est en dehors du regard philosophique. Le philosophe ne l'atteint que par la limite. C'est-à-dire dans la mesure où la forme étant reçue dans la matière est immédiatement limitée, restreinte, individualisée. Et la forme perd son caractère propre de forme, de beauté. La réaction d'Aristote face à Platon. C'est un effort d'intégrer la matière dans la philosophie. C'est pour ça qu'on peut dire qu'Aristote est le premier philosophe de la matière. C'est pour ça que les marxistes et Marx aiment Aristote et haïssent Platon. Parce que pour eux, Platon, c'est la philosophie de la forme, donc philosophie bourgeoise. Aristote, c'est le philosophe qui intègre la matière. Et donc, c'est le premier philosophe matérialiste. Parce qu'il intègre la matière dans la philosophie. Et le jour où la matière est intégrée dans la philosophie, on est matérialiste. Dans une perspective marxiste. Ça ne peut pas être autrement. C'est très très joli, du reste. C'est pas commode d'intégrer la matière dans la philosophie et de rester spiritualiste. C'est pas commode d'avoir un pied sur la matière et la tête dans le ciel. Normalement, il faut deux personnages. Celui qui regarde la matière, le mouvement, le devenir, la corruptibilité, et l'autre qui regarde le ciel. Mais ils sont les jumeaux. Qui ne sont pas de vrais jumeaux, mais qui sont ensemble, l'un regarde la matière et l'autre regarde le ciel. Tellement c'est difficile au plan philosophique de regarder la matière pour elle-même et de regarder le ciel. Vous voyez, quand je dis regarder la matière pour elle-même, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est peut-être là, justement, comment Aristote peut dépasser complètement Platon. Platon veut regarder la matière pour elle-même, en soi, puisque tout est en soi. Or, regarder la matière pour elle-même et en soi, c'est justement s'empêcher d'avoir une philosophie de la matière. Vous ne pouvez pas avoir une philosophie de la matière en regardant la matière en elle-même. Puisque c'est la totale obscurité. C'est inintelligible. Source errante. La réaction d'Aristote face à Platon, c'est de regarder notre monde physique et de dire que ce monde physique, dans son mouvement, a une certaine intelligibilité. Et que ce n'est pas la forme séparée de la matière qui est source de toute l'intelligibilité. Je crois que ça a été la première réaction d'Aristote par rapport à Platon. Et ceci provient tout simplement du fait que pour Aristote, l'expérience sensible est fondamentale et première. Toute ma connaissance humaine provient de cette expérience. Alors que pour Platon, toute la connaissance philosophique provenait de la réminiscence. Et ensuite, d'autres aspects, mais ne provenez pas de l'expérience. Dans l'expérience, vous trouvez uni le point de vue de l'intelligence et le point de vue de la sensation. Et l'expérience, c'est les deux liés ensemble, selon un certain ordre. Donc, je ne peux pas rejeter l'expérience pour découvrir l'intelligibilité à l'état pur, découvrir la forme. Je dois au contraire accepter cette voie très pauvre qui est l'expérience, l'expérience sensible, avec toute sa complexité. Je crois que ça, c'est la réaction première d'un Aristote face à Platon. C'est toujours très important de saisir le moment où Aristote décroche de Platon. Au-delà de la séduction platonicienne qui est tellement forte, à quel moment Aristote a-t-il décroché? On ne sait pas, il ne dit pas. Bon, il y a une chose nette, c'est qu'Aristote n'a jamais accepté les idées-formes, les formes idéales, jamais. S'il y avait eu un texte qu'on aurait pu retrouver d'Aristote acceptant ça, vous voyez, ça aurait été la grande victoire des historiens. Ils n'ont jamais trouvé. Alors on peut être sûr. Hein. Quand ils disent qu'ils n'ont jamais trouvé, on peut être sûr qu'elle n'y est pas. Mais ce qu'on constate, c'est qu'Aristote, tout de suite, est tourné vers l'expérience. Il est tourné vers le mouvement. Ce qui est mu. Et pour lui, l'expérience est source de philosophie, source de toute notre réflexion. Et que nous devons tout le temps revenir à cette expérience, le lien d'intelligence et des sensations. Et dans les sensations, il y a présence de la matière. Une matière qui commence à se spiritualiser par la sensation. Ça, c'est ce que diront Avicenne. Avicenne dira ça. Une matière qui commence à se spiritualiser. Une matière qui, dans la sensation, va impliquer déjà une première abstraction. Pour Aristote, l'expérience donne ce contact direct avec le monde physique. Et là, on voit bien, la matière n'est pas rejetée. Ni du côté du sujet pensant, ni du côté de la réalité atteinte. Donc, je crois que c'est ça qui est l'originalité d'Aristote par rapport à Platon. Il y en aura d'autres. Mais je crois que c'est le premier point où on fait une option. Sommes-nous aristotéliciens? Si nous aimons l'expérience, nous sommes aristotéliciens. L'expérience externe. Et si nous avons le souci de revenir toujours à cette expérience externe, nous sommes aristotéliciens. Si au contraire, nous nous enfermons dans des idées, formes, idéales, ça prouve qu'il y a en nous une propension vers Platon assez forte. Parce que c'est ça le point de vue. Alors vous voyez tout de suite, hein, le point de vue artistique, s'enfermer dans l'idéa, s'enfermer dans l'inspiration, c'est très platonicien. Et le réalisme très saint de la philosophie qui commence par l'expérience, avoir horreur de s'enfermer et s'ouvrir à toute espèce d'expérience. Comprendre que c'est l'expérience qui nous nourrit, c'est l'expérience qui nous permet de continuer notre route. Ce n'est pas les idées que nous avons, c'est l'expérience. Les deux points de départ, très importants. L'un exclut la matière, l'eau de la terre. Et par le fait même, dans la philosophie d'Aristote, l'étude de ce qui est mu prendra une très grande importance. Numériquement, c'est l'étude des réalités physiques qui a été l'occasion de la philosophie la plus étendue dans Aristote. Après la physique, on voit très bien l'étude des réalités qui sont autour de nous. Donc, comprendre comment, dans cette réflexion philosophique, l'homme se situe lui-même dans ce devenir. Et c'est ce devenir physique, ce devenir naturel qui va l'intéresser en premier lieu. Je crois que génétiquement on peut dire ça. Peut-être, que avant ça, Aristote s'est intéressé à la rhétorique. Aristote s'est intéressé à la logique. Peut-être, j'en suis pas sûr. Je crois que ce qu'a été son premier appétit, c'était cela. Alors, quand je dis premier appétit, faisons attention. Il y a eu l'éthique. Aristote se dit plus proche de Socrate que Platon n'est proche de Socrate. Ça prouve qu'il a aimé l'éthique. Connais-toi toi-même. Mais la physique, la philosophie de la nature, représente pour lui un commencement très important. Alors, le génie d'Aristote, comparativement à Platon, Platon est fasciné par l'unité. Vous retrouvez ça partout. Aristote comprend la complexité. Et il cherche, dans cette complexité, à redécouvrir l'unité. Ça, je dirais que c'est une très grande différence entre les deux. Et elle est sensible, elle est visible, on peut la toucher, cette différence. L'uniformité de la forme, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui est le plus uniforme? C'est la forme. Ça va de soi. Tandis qu'au contraire, Aristote, lui, il est très sensible à la diversité. Et c'est pour ça qu'Aristote reconnaîtra qu'il y a plusieurs demeures dans la philosophie, alors que pour Platon, il n'y en a qu'une, la contemplation du beau en soi, du bien en soi. Et ça, vous voyez, ça fait tout de suite, au point de vue des recherches, deux attitudes totalement différentes.